Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de René et son équipe.
Une nouvelle édition de votre émission Un jour à la fois. Vous écoutez René en compagnie de Richard et de notre invité du jour que je vous présenterai dans un instant. Comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous informe que cette émission est entièrement dédiée à la solution, à la promesse et au mode de vie des alcooliques anonymes. Donc, un problème bien présent dans la société d'aujourd'hui, celle de la surconsommation d'alcool ou d'une consommation problématique, disons, qui amène les gens à avoir des comportements plus ou moins adéquats. Donc, on va vous parler de notre propre expérience et de la solution qu'on a appliquée à notre problématique. Donc, une association internationale d'hommes et de femmes qui avait un problème avec l'alcool. Non professionnels, politiques ou religieux, ils s'autofinancent et on les retrouve presque partout. Sans règle d'admission, tous ceux et celles qui veulent faire quelque chose à propos de leur problème d'alcool peuvent devenir membres. Basé sur les 12 étapes des AA, un groupe de principes de nature spirituelle qui, lorsque mis en pratique comme mode de vie, peuvent chasser l'obsession de boire et permettre à celui et celle qui souffre de se sentir heureux et utile. On parle ici d'une obsession, évidemment, la maladie ayant s'étant développée, ce n'est plus vraiment le buveur qui décide, c'est une pulsion malheureuse qui nous oblige à boire, même si on aimerait bien arrêter. Donc, une promesse de se sentir heureux et utile, et on va voir comment elle se manifeste dans la vie de notre invité. À chaque semaine, on reçoit quelqu'un, un membre de la Fraternité des Alcooliques Anonymes, qui vient nous parler de sa vie actuelle, des difficultés passées, mais surtout de son expérience actuelle au sein du mouvement des Alcooliques Anonymes. Mais on va faire le tour de tout ça bien doucement avec Robert aujourd'hui, qui arrive avec une belle énergie, les yeux pétillant. Comment se fait-il qu'un alcoolique soit aussi heureux et libre? Ben, il va nous le dire. On t'écoute.
Ben, bonjour mes frères et sœurs. Je m'appelle Robert, je suis définitivement un alcoolique. Un alcoolique, je te dirais aujourd'hui, qui est rétabli de sa maladie de l'alcoolisme. Je suis rétabli dans le sens que je suis pas guéri. Ça, je le sais, que je le serai jamais. Mais je suis rétabli dans le sens que j'ai repris ma place qui me revenait dans la société. L'alcool, ça a été pour moi une grosse béquille pendant longtemps pour apprendre à fin que quand je suis rentré en thérapie, que j'étais atteint d'une maladie qui s'appelle l'alcoolisme. Pour moi, c'était nouveau parce que ça faisait longtemps que je pensais que j'étais fou ou que j'avais des problèmes de mémoire. J'ai pensé longtemps que c'était des problèmes de mémoire parce que je finissais une brosse malade ou dans un bas-fond certain, puis je me disais, c'est fini, je boirai plus jamais. Puis deux jours après ou le lendemain, ça a fait colline. Hein. J'ai eu un trou de mémoire, je m'en rappelais pas que j'avais dit ça hier. T'sais. Fait que ça a été... Puis je suis devenu, c'est ça, cette maladie-là de l'alcool, c'est l'alcool qui a pris le contrôle de ma vie, comme René expliquait tantôt. J'ai perdu le contrôle complètement, moi c'est l'alcool, tout était fait en fonction de boire, moi. Tout le temps. La moindre argent qui me rentrait dans les poches, c'était pour boire. Je travaillais, c'était pour boire. J'ai fait des niaiseries, c'était pour boire. Puis avoir de l'argent pour boire. Fait que j'ai perdu le contrôle de ma vie avec l'alcool. Parce que tout, comme je dis, tout était fait en fonction de ça. Moi, aujourd'hui, c'est complètement différent. Tu sais, parce que je disais tantôt que je suis rétabli dans le sens que j'ai repris ma place dans la société. Moi, j'étais rendu un déchet de la société. Là. Ça a pris, on dit la prison, la mort ou la folie. Moi, ça a pris la prison, puis même encore là, ça n'a pas été assez. Il a fallu que je me ramasse dans la prison de la prison. Puis plus ma prison intérieure que j'ai découvert après, ça faisait bien des barreaux à traverser pour être libre comme je suis aujourd'hui là. Ça a fait beaucoup de barreaux à traverser. Je vais te compter un peu tantôt là d'où je viens, mais c'est ça. Fait qu'aujourd'hui j'apprécie la vie. Je la prends comme elle vient, je la prends le moment présent. J'ai lâché le juste pour aujourd'hui pour le moment présent. Parce que des fois, juste pour aujourd'hui, la journée peut être longue encore. T'sais? Fait que j'aime ça me ramener à mon moment présent, ici, maintenant. T'sais. À matin, j'étais supposé d'être ici à 9h, puis ça dormait bien mon affaire. Fait que j'ai vécu mon moment présent. Puis j'ai commencé à me taper sur la tête un peu après, un moment donné, après le téléphone à René. Mais après ça, ça a fait, ben non, si c'est arrivé de même, c'est parce que ça devait arriver de même. Il y a rien qui arrive pour rien. Pour moi, aujourd'hui, c'est de même que je vois la vie. T'sais. C'était j'ai arrêté de dramatiser, j'ai arrêté de me taper sur la tête avec toutes les affaires que je peux faire. Ça m'arrive encore d'en faire des affaires qui n'ont pas d'allure aujourd'hui. Là. Je suis pas parfait, là. Je suis parfait comme être imparfait. Ça, comme être imparfait, là, je suis parfait. Mais, fait que c'est ça. Moi, je viens d'une famille. Chez nous, on entend souvent des messages. Je viens d'une famille dysfonctionnelle. Chez nous, dysfonctionnel, c'était moi. C'était. Je vais comprendre ça. Un moment donné, ça fait un an et demi que je suis dans le mouvement, puis je t'ai invité à aller parler un samedi soir à Montréal d'un groupe, puis je vais souper avec ma sœur avant, puis j'invite ma sœur à venir au meeting, lui expliquant que c'est moi qui partage, puis que je parle de mon enfance, comment moi je l'ai vécu. Peut-être que toi, t'as pas vu ça de même, mais si tu veux, on s'en parlera, mais après le meeting, tu sais. Je voulais pas qu'elle se lève pendant le partage, je dis, hey, le clown, c'est pas de même, tu sais, puis ça attend après le meeting, puis on... Puis je vais partager, elle accepte de venir, puis je partage. Puis après le meeting, on embarque dans le char, puis elle me tape sur l'épaule, puis elle dit « t'avais bien raison ». Je t'ai vu ça de même, toi ici, elle dit « pas une maudite minute ». Fait que j'ai compris que le problème venait de moi. J'ai compris que dans le gros livre, il parle que notre problème premier, c'est notre égocentrisme, mon petit moi. Ah, moi j'ai fait pitié longtemps, là. Moi, j'ai fait très, très pitié, puis tout m'était dû. Moi, c'était ça aurait été normal que j'aie tout en venant au monde, moi. Que j'aie le portefeuille, la maison, la femme, tu sais, que j'aie tout ça. Mais je chicanais souvent, pas chicanais, mais je me plaignais souvent à Dieu. Tu sais, comment se fait que lui, il a ça, puis tu sais, si j'ai ça, mais ben, tu sais, ça me semble que ça irait mieux, tu sais, à voir, tu sais. Fait que c'est ça. Mais moi, je disais dans le temps que mon père était mûr pour AA, puis que la mère était mûr pour Al-Anon, puis que la mère avait pas le temps de s'occuper de moi le soir. Elle passait à s'éveiller à faire du ménage, du lavage, puis quand elle avait plus de linge à laver, je pensais qu'elle allait en chercher dans les tiroirs, en avoir d'autres à laver pour avoir à s'occuper de moi. T'sais. C'était ma perception à moi. T'sais. Puis ma sœur, après, dans l'auto, elle m'a expliqué, elle dit, regarde, elle dit... ta mère, là, qui tu pensais qu'elle s'occupait pas de toi le soir, là, elle dit, avec trois enfants qui allaient à l'école, elle qui travaillait, puis le père qui travaillait, c'était normal le soir qu'elle arrive de travailler, qu'elle avait un souper à faire, à préparer pour la famille. J'ai jamais manqué d'un bon repas sur la table, moi, là, tu sais. Puis elle dit, c'était normal qu'elle avait du linge à laver le soir, là. Elle était cinq, elle est sortie toute la journée, là. Fait qu'elle dit, tu sais, puis là, j'ai réalisé, j'ai jamais manqué de linge propre pour aller à l'école. Moi, j'ai jamais manqué d'un bon repas sur la table, puis tout, tu sais. Mais mon ego, moi, ça m'aurait pris un père et une mère qui me berce à plein temps. Puis il n'aurait pas eu de rêve, j'aurais brûlé une coupe de chaise berçante. C'est sûr et certain. C'est que moi, un besoin d'attention, un besoin d'amour démesuré. T'sais. Je ne sais pas si... en tout cas, je ne sais pas si c'est parce que je suis au monde à Saint-Valentin que j'ai besoin d'amour de même, mais c'est comme démesuré, mon affaire. T'sais. Fait que à partir de là, ça a comme changé encore ma perception de moi. Tu sais, de mon égocentrisme, puis tout partait de moi, puis ça a fait partie de mon cheminement, je te dirais, avec les années d'en haut. Fait que ça a été... fait que c'est ça. Fait que moi, jeune, j'étais un enfant que j'ai aucune confiance en moi. Besoin de l'approbation de tout le monde, besoin de l'attention de tout le monde. Puis chez nous, il y avait pas ça en stock. Tu sais, ils nous ont donné le meilleur de ce qu'ils avaient reçu, je suis convaincu de ça, là. Tu sais, mais... c'était comme, tu sais, chez nous, c'était le genre de pensée, quand t'es valet, t'es pas roi, quand t'es né pour un petit pain. Tu sais, toutes des belles pensées positives de même, là, qui t'aident à foncer dans la vie, pour avoir confiance en toi, là. T'sais. Fait que je n'avais aucune confiance en moi, là. C'était la voisine à un moment donné qui m'a gardé à partir de 4 ans, 5 ans, c'est la voisine qui me gardait. Puis j'étais plus souvent chez eux que chez nous, parce que j'avais l'impression d'être plus aimé chez eux que chez nous. T'sais. J'étais rendu, la mère puis le père, ils organisaient un réveillon de Noël, puis moi, je réveillonnais chez la voisine. T'sais. J'étais chez la voisine, je connaissais plus la famille de la voisine que la mienne. T'sais. Fait que pis ça a fait un bon bout. Après ça, quand j'étais assez vieux pour aller dîner chez nous, je faisais semblant d'avoir oublié mes clés pour aller dîner chez eux. J'étais tout le temps là. Parce que je cherchais tout le temps l'amour, je cherchais tout le temps l'approbation des autres, puis l'attention, puis fait que c'était ça. Ma jeunesse, là, ça s'est passé de même pas mal, tu sais. Puis j'avais commencé à boire, moi j'ai 9-10 ans, tu sais. 9-10 ans, moi, mon père, le samedi soir, on écoute le hockey, l'hiver ou l'été, on écoute des westerns, puis Lui, il est assis dans son lézébreuil. Moi, j'étais tendu sur le divan à côté. Puis une fois de temps en temps, je check sa bouteille de bière sa table à côté de son lézébreuil, là. Puis quand il en reste un fond, là, je m'en vais dans la cuisine me chercher une liqueur. Là. Voulez-vous une frette? Celle-là doit être chaude, tu sais. Et aussitôt qu'il disait oui, je sautais sa bouteille. Puis je la finissais en m'en allant dans le passage. Puis j'en prenais une bonne rasade de la frette en revenant dans le salon. Tu sais, je faisais ça toute la veillée. J'avais 9-10 ans. Fait quand il m'envoyait me coucher, là, c'était crissement moins important. C'était bien correct. Je m'allais me coucher, puis ça dormait bien. T'sais, ça n'en prenait pas une tonne, non? Puis c'est ça. Puis il m'a commencé à boire véritablement vers l'âge de 14 ans. Là, une petite gang qu'on a dans la paroisse chez nous. J'ai grandi à Montréal, puis dans l'Est, puis l'Angelier, dans ces coins-là. Puis on s'est fait une petite gang, puis on a une cabane dans le bois, puis le vendredi soir, on s'achète une petite caisse de 12 au dépanneur, on attend qu'il y ait un bon samaritain, ils veulent nous acheter une petite caisse de 12 avec les 5 piastres qu'on a ramassées de nos parents, puis les 2 piastres, puis on va boire notre petite caisse de 12 dans le bois, puis j'ai des tapes dans le dos, moi, le lendemain, puis t'es correct, puis on a eu du soin avec toi hier, puis tout. Moi, j'ai acheté ça tout de suite. J'ai pas ben plein temps à partir de là, c'est juste parce que j'avais pas d'argent pour le faire, puis je suis convaincu que je l'aurais fait. Fait que c'est ça. Fait que c'est de même que mes déboires ont commencé avec l'alcool.
Merci beaucoup, Robert, pour cette belle entrée en matière. Je suis très, très intéressé par la suite de ton parcours. On voit qu'il y a une belle maturité d'installer, puis que tu es allé voir profondément sur tes comportements passés. Je me suis reconnu dans ce vide émotif que tu as décrit tout au long du premier segment. Une recherche d'amour incommensurable, d'acceptation, de réconfort qui malheureusement n'est pas disponible hein, dans le monde humain. On a tous des carences et on a tous des attentes et des manques, fait que malheureusement, je crois qu'il a fallu que tu le trouves ailleurs et c'est dans ces premières consommation que tu as trouvé ta première réponse. On revient pour la suite de ton partage dans un instant.
Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de René et son équipe.
Nous revoici donc de retour de cette première pause. Vous écoutez Un jour à la fois, votre animateur René en compagnie de Richard qui reçoivent Robert. Robert nous a introduit à son enfance, à son vide intérieur avant de partir à la pause et on va poursuivre dans un instant sur le développement de sa vie, son histoire. Avant d'y retourner, je vous fais la lecture d'un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré des réflexions de Bill. Pour la plupart des gens, l'alcoolique mène une double vie. Il est un grand comédien. Il présente à la face du monde son personnage de scène, celui qu'il aime montrer à son entourage. Il cherche à se créer une certaine réputation en sachant au fond de lui-même que ce n'est pas celle qu'il mérite. La culpabilité est en réalité le revers de la médaille de l'orgueil. La culpabilité conduit à l'autodestruction, l'orgueil conduit à la destruction des autres. L'inventaire moral est un examen calme des dommages que nous avons subis durant la vie et un effort sincère pour les voir dans leur juste perspective. Il a pour effet de nous débarrasser de ce ver broyé, cette substance émotionnelle qui continue à nous cisailler et à nous paralyser. Je me rappelle avoir lu ce passage à plusieurs reprises, étant donné qu'on y revient à chaque année, une lecture quotidienne de 365 textes différents. Donc, au fil de mon rétablissement, j'ai toujours été ramené profondément à ma souffrance personnelle en comparaison avec ce ver broyé, cette chose malsaine, extrêmement souffrante qui m'habitait. À nos fondateurs de l'avoir mis en mots. Donc, on revient à Robert, qui est un enfant débrouillard, puisqu'il trouve des moyens de se procurer de l'alcool. Donc, on t'écoute.
Oui, merci René. En écoutant ton texte aussi, sur les premières phrases, ce qui m'est monté, c'est qu'avec l'alcool, j'ai développé le syndrome du caméléon aussi. Moi, je prenais la couleur du monde qu'il y avait à côté de moi juste pour être sûr de me faire aimer. Puis ça, ça a commencé très, très jeune, même à la petite école, au primaire. Moi, j'étais... tu sais, on avait dans le temps, on avait première année A, B, C. T'sais, si tu me mettais dans le B, c'était les moyens, j'avais des notes moyennes. T'sais. Si tu me mettais dans le A, j'avais des bonnes notes parce que je suivais les autres. Puis si tu me mettais dans le C, j'étais fall ball, si je suivais les autres, pareil. T'sais. J'étais... Tout de suite, là, je prenais la couleur du monde qui m'entourait pour être sûr d'être aimé, puis d'être... Puis ça va me suivre pendant toute ma vie de consommation. Je me suis rappelé, à un moment donné... moi, je pouvais être assis au bar, puis être assis avec le pire bandit de la place, puis dire, on va faire une méchante passe de cash, on va faire ci, on va faire ça, puis on parlait de faire des niaiseries, puis faire du cash, puis tout, mais une heure après, je pouvais être assis avec un policier à côté de moi au bar, là, on va tous les arrêter, ça, s'ils n'ont pas d'affaires à faire ça, puis tout, là, juste pour être sûr de me faire aimer de la personne qui était à côté de moi, je prenais sa couleur, tu sais, c'était... J'avais mon auto, puis j'écoutais chambre, puis j'embarquais une fille. Ah, elle doit écouter rock détente. Fait que je mettais ça à rock détente avant qu'elle embarque, tu sais, pour lui montrer que j'écoutais la même musique qu'elle, puis des fois, c'était même pas ça. Elle écoutait c'est quoi ou d'autres choses. C'était... Mais j'étais mêlé de même. Quand je suis arrivé avec AA, elle m'avait dit, t'es qui, toi? Je le sais pas. Je le sais pas, apprendre la couleur de tout le monde, je connaissais pas mes couleurs. Ça, c'était un gros cadeau que j'ai eu avec Alcoolique Anonyme de connaître mes couleurs, tu sais. Puis c'est ça. Fait que comme je disais, j'ai commencé à boire là, véritablement vers 14 ans. Puis à 16 ans, moi, dernière journée d'école, le 23 juin, je me rappelle, le soir, on s'apprête à souper, puis ma mère, elle va me dire, je veux pas te voir traîner avec ta gang de trimpe tout l'été. Fait que déjà là, la mère, elle me place une étiquette dans le front comme quoi je me tiens avec une gang de trimpe, tu sais. Puis j'ai déjà dit d'ailleurs, j'avais pas pensé que ça pouvait être moi le trimpe qui entraînait les autres, tu sais. Parce qu'elle trouvait, maintenant, il y a du monde qui m'entraînait, tu sais, mais j'en entraînais moi aussi, là. Puis elle va me dire, je t'ai trouvé une job pour l'été, je veux pas te voir traîner avec ta gang de train tout l'été, puis elle m'a fait rentrer à Brossy Molson, tu sais. Elle a bien regretté, mais pas moi. Moi, c'était la seule job que j'ai eu, j'arrivais si de bonne heure avant de commencer mon shift, je partais si tard après l'avoir fini, j'ai jamais eu d'autre job de même. J'arrivais 2 heures avant de commencer mon shift, 2-3 heures après, c'était les gardiens de sécurité qui nous mettaient dehors des cantines, parce que dans ce temps-là, il y avait 7 cantines dans Molson. Puis c'était bar open. Fait aujourd'hui, c'est plus de même, là, Dieu merci, là. Mais c'est ça. Fait que j'ai fait comme Obélix, j'ai tombé dans le berry. Drette là à 16 ans, moi, ça a été le paradis. Ça a été le paradis, là. Mais le paradis, il a pas duré longtemps. Le paradis, j'ai commencé à travailler là début juillet. Puis au mois d'août, un samedi après-midi, je reviens de travailler chez nous. Il est 4h30 de l'après-midi. J'ai fini de travailler à 7h le matin. J'ai-tu besoin de vous dire dans quel état je suis? Je suis au 45, j'ai le tour des pieds ronds, j'ai de la misère à mettre un pied en avant de l'autre, puis me rentrer chez nous, puis la mère va me caler pour mon premier business meeting dans la cuisine. T'sais. Puis à 16 ans, ma mère va me dire, Robert, tu devrais aller chez Alcoolique Anonyme, je pense que t'as un problème avec l'alcool. Moi, ça a fait, ben voyons donc, il y en a des bien payés comme moi là-bas. Je travaille dans pour poigner des alcooliques. Il y en a une méchante gang là, je te jure. Ben, la réponse que ça fait en dedans de moi, ça fait déjà là, probablement que t'en as un problème, le grand, parce que déjà là, il y a du monde qui se tasse à côté de moi parce que je bois trop. J'ai des chums qui disent, regarde, là, on t'invitera pas au party, là, t'es pas reposant, là. Fait que, va cuver ailleurs, puis fait que déjà là, c'est une cloche qui allume, là, que ma mère m'allume, mais que je prends pas. J'écoute pas, puis écoute, le party commence, c'est bar open à Molson, puis yahoo, puis c'est le party, puis on arrive à 8h, dans le temps, il y avait une brasserie au coin de Papineau, Sainte-Catherine, qui faisait le L, là. Le bar existe encore, mais là, c'est rendu le quartier gay, mais dans le temps, c'était pas le quartier gay, là, mais... Puis aider la barmaid à débarrer les portes le matin, mettre les chaises à table, là. Mettre les chaises à terre, ces tables, puis qu'est-ce que vous allez prendre? Le premier matin, qu'est-ce que vous allez prendre? T'sais, elle pense nous servir un café, puis on prend chacun une grosse, là. Elle fait le saut, là. On a 17 ans, là. T'sais, moi, j'ai 17 ans, puis l'autre qui est avec moi, il y en a peut-être 24. Mais, on est déjà sur la brosse, mais totale, là. Fait que c'est ça. C'est le même, ça a commencé... pas mal ma grosse consommation. J'ai fini mes études, Dieu merci, mes parents m'ont obligé à finir mes études. J'ai voulu, moi mon père était contracteur électricien, fait que j'ai dû me prendre la sortie courte. Moi je voulais pas aller au cégep parce que j'avais peur des initiations. J'ai tout le temps été rempli de peur, en n'ayant pas confiance en moi, j'ai tout le temps été rempli des centaines de peurs qui parlent de notre littérature, là. J'en avais bien en masse, là. J'avais peur de mon ombrage, je sais que bien souvent, puis... Fait que là, je voulais pas avoir d'initiation, puis j'avais le goût d'aller sur le marché du travail plus vite fait pour pouvoir faire de l'argent, puis pouvoir boire plus, puis... Fait que j'ai dit, moi, je vais prendre mon cours d'électricien en DEP, puis... Mais il fallait que mon père signe, puis moi, je suis en bon crosseur. J'étais arrivé la veille qu'il fallait que je remette la feuille pour lui mettre un peu de pression pour qu'il signe, t'sais. Puis mon père regarde ça, puis moi, je m'étais dit, je vais prendre mon cours d'électricien. Mon frère était déjà électricien. Fait que il travaillait pour mon père. Fait que je dis, moi et mon frère, on va aller faire les jobs, puis mon père va aller chercher les clients. Fait que ça va être correct, tu sais, ça va être le fun. Mais mon père, il a pas vu ça de même. Il dit non. Il dit, moi, je te vois pas en électricité, il n'y a pas d'ouvrage, puis il voyait bien que Corlo, comme j'étais déjà à cet âge-là, là, ça il tentait pas de m'avoir d'impact, là, pas en tout. Fait que il dit, regarde, il dit, t'aimes la construction, t'aimes ça, puis fait qu'il dit, en bas de ça, il dit, je signe pas. Fait que c'est mon père qui a décidé le métier que je fais encore aujourd'hui. Des fois, je l'ai regretté, mais aujourd'hui, je l'apprécie, puis je suis bien content, là. Mais c'est ça. Fait que ça a été... Fait que j'ai fini mes études, j'ai appris mon métier, puis... Mais les premiers jobs, là, je te dirais de 18, quand j'ai fini l'école, là, de 18 ans à 28 ans que j'ai arrêté de boire, là, le gros de mes années de consommation, ça a été le party total. Ça a été la brosse à plein temps. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je m'en revienne chez nous des soirs, des matins ou des soirs, là. Puis me dire, là, être déchu d'endèche total, là. Tu sais, là, j'ai plus de job. Le chômage, j'achève. C'est que je suis endetté par-dessus les oreilles. Il n'y a plus personne qui veut me voir. Je rentre à la brasserie. Le monde se pousse de moi. Puis, il viendra pas nous filer ça dans les oreilles encore à soir. Puis, puis là, je m'en reviens chez nous, puis là, je pleure, puis je me dis, il me semble la vie a de quoi de mieux à m'offrir que ce style de marde-là. Ça se peut pas que la vie, elle ait juste ce style de marde-là à m'offrir. Puis généralement, moi, me finir ça à genoux, cette réflexion-là, en pleurant, puis en priant. Mon Dieu, fais-moi gagner le 649, me payer mes dettes, me m'acheter un char et une maison, puis ça va bien aller, tu créeras pas ça. Quand tu finis ta prière, ben, tu créeras pas ça, là, ça commence très mal. Ça commence très, très mal. Puis, parce que moi, j'ai 23 ans à peu près, puis un de mes chums, il vient me chercher un vendredi matin où je travaillais, puis on va dîner ensemble, puis il est 10h, on s'en va dîner à la brasserie, puis après avoir mangé quelques grosses bières, ben, il m'annonce qu'il s'en va dans la Beauce, ouais, son frère Pierre, tu sais. Son frère Pierre, moi, je l'ai connu quand il est resté sérieux en arrière de chez nous, à Montréal, comme étant un gars très violent, très rock'n'roll, puis en tout cas, il était pas reposant, un gars de basic, il était tout là. Puis moi, je passe à la brosse avec mon chum, puis on s'en va voir Pierre avec lui, dans la Beauce. Puis Pierre, il est rendu, lui, il est tranquille avec sa femme, sa petite-fille, maison louée, il travaille sa construction, il est heureux comme un roi, puis il consomme plus. Puis moi, le samedi soir, je suis sous comme un coup de poing encore, puis je suis seul avec Pierre dans le salon chez eux, puis lui, il va me regarder, il va me dire, qu'est-ce que vous attendez, toi, mon frère, pour arrêter de vous saouler, puis vous défoncer comme vous le faites? Il dit, vous êtes sous 6 jours par semaine, si ouais, qu'est-ce que vous attendez pour arrêter, tu sais? Puis moi, il m'a posé une question qui est sortie tout seul de ma bouche cette journée-là. Ça a fait, qu'est-ce que ça prend pour arrêter de boire? J'ai pas dit qu'est-ce que t'as fait, t'es-tu venu te cacher ici, ou, qu'est-ce que ça prend pour arrêter de boire? Puis moi, c'est le gars de Bessic là qui va me dire, la seule chose que ça prend pour arrêter de boire, Robert, c'est d'avoir la foi. Moi, un gars de Bessic qui me dit d'avoir la foi, il a arrêté de consommer, là, j'attends un peu, c'est fort en os, cette affaire-là. Puis mettre 5 ans à chercher c'est quoi avoir la foi, moi. T'sais, de 23, 28 ans à chercher c'est quoi avoir la foi, en faisant des prières, comme je te disais tantôt. T'sais. Ça a jamais marché, mais généralement, quand j'avais fait cette réflexion-là, le lendemain, je décidais d'arrêter de boire, de me reprendre en main, puis de me remettre à la recherche d'emploi. Pendant une semaine ou deux, je me retrouvais un job dans mon métier, je recommençais à travailler, tout pouvait bien aller pendant une couple de semaines, boire une couple de mois sans boire. Fait que, puis je vais te compter la suite après.
Robert, tu viens de me déstabiliser émotivement, évidemment, en parlant de cette recherche de foi, de spiritualité, de quelque chose de différent hein, qui nous a été inculqué, en tout cas en tant qu'homme autosuffisant, fort physiquement et travaillant. On cherche des solutions un peu partout, sauf dans ces voies surprenante. J'imagine très bien l'image là, de ce gars de Bessic qui te parle de foi, ça ouvre l'esprit. Mais encore là, une recherche complexe qui dure des années et des années. Mais à chaque petit pas, à chaque petite réalisation, tu viens de le dire, un moment de lumière, un moment de calme, un nouveau travail. Donc, t'as déjà des preuves que peut-être que tu enregistres pas consciemment, que cette foi peut t'amener à une vie meilleure. On va sûrement y toucher au retour de la pause dans un instant.
Je me sentais seule, angoissée, agressive. et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidée à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur AA.org.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de René et son équipe.
Nous revoici pour la suite de notre émission Un jour à la fois. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on est en compagnie de Robert, un homme illuminé, un homme présent, du moins conscient, beaucoup plus conscient, qui est capable de nous parler d'un passé avec un regard très précis sur l'évolution de ses prises de conscience, de son cheminement d'alcoolique et des premiers signes de ses difficultés de consommation. Avant d'y revenir, je vous invite à consulter notre site internet, le unjouralafois-émission.org, qui va te donner accès à notre banque de fichiers de partage archivés pour écoute sur tout appareil intelligent. Le partage de Robert va s'y retrouver dans quelques semaines et tu pourras l'écouter, le réécouter et peut-être même et aussi même le télécharger sur ton téléphone, ton ordi, ta tablette. Pouvoir réécouter ces conseils et ces choses qui font que tu t'identifies. Il y a aussi sur ce site les heures de diffusion de nos collaborateurs radio. Il y a notre adresse courriel où on aimerait beaucoup entendre tes commentaires et tes questions sur le mouvement en général, sur un passage du partage de Robert et peut-être même créer une rencontre si tu veux venir toi aussi partager ton expérience sur les ondes. Donc, Robert, tu as parlé d'un premier réveil spirituel, en tout cas d'un premier message d'une profondeur différente, et de 5 années consécutives, on écoute donc la suite avec toi.
Oui, c'est ça. Je disais que je me retrouvais un emploi dans mon métier, je recommençais à travailler. Tout pouvait bien aller pendant une couple de semaines, voire même une couple de mois sans boire. T'sais, j'allais travailler le matin, puis je me refaisais une santé physique, monétaire. Puis tout allait bien, la spiritualité dans ce temps-là, j'en parlais pas, je savais même pas c'était quoi. Mais c'est ça, tout allait bien. Mais aussitôt que je fréquentais pas, mais aussitôt qu'il y avait de quoi qui venait me chercher des émotions. Que des émotions, j'ai appris c'était quoi avec AA, je savais même pas c'était quoi avant. Moi, avant, j'étais soit bien de bonne humeur ou bien en crise. C'était un ou l'autre, c'était les deux émotions que j'avais. T'sais, fait que j'avais aucun senti de moi-même, là. Il était gelé à plein temps, fait que j'étais tout le temps dans la consommation, fait que j'avais aucun senti. Mais à jeun, aussitôt qu'il y avait de quoi qui venait me chercher des émotions, entre autres le ressentiment, je me rappelle, j'ai identifié ça, moi, je travaillais dans un bureau dans mon domaine à Montréal, dans le centre-ville, un des plus gros bureaux dans mon domaine. Puis je suis content de travailler là, on est bien traité puis tout. Puis là, il engage un nouveau. Puis mon boss vient me le présenter, puis il dit, tu vas travailler avec lui sur telle chose, tel projet. Puis lui, cette personne-là vient me voir avec une pile de dossiers 10 minutes après. Puis il dit, Robert, tu vas aller me faire des photocopies de tout ça, de tous ces dossiers-là. Fait que je regarde, c'est parce qu'il y a des secrétaires en bas qui sont payés pour ça, faire des photocopies des dossiers, puis tu sais, moi, je suis pas dans ce domaine-là. Puis lui, il va me dire, écoute, toi, t'es juste un ci, puis moi, je suis un ça. Fait que tu vas fermer ta gueule, puis tu vas aller faire des photocopies. Il revient là-bas, puis il s'en va. Moi, j'ai attendu 5-10 minutes, le temps de me calmer un peu, et j'ai pris la pile de dossiers, et j'ai été lui crucifié sur son bureau. Lui expliquait encore la même chose, que va avoir des secrétaires en bas, ils sont payés pour ça, puis tellement fort que tout le monde a arrêté de travailler dans le bureau, tout le monde s'est reviré de bord pour regarder qu'est-ce qui se passait. Puis moi j'ai commencé là, le ressentiment il a commencé là j'ai commencé à bouillir après lui, puis moi dans ce temps-là je me fermais à la gueule, je parlais plus, puis lui non plus il me parlait plus. Après 3 jours il est venu me voir un avant-midi, puis il vient, on va aller dîner ensemble, on va régler nos différends. Puis ils disent, on va se parler, puis ils disent, on va se comprendre, faut qu'on travaille ensemble. Fait qu'ils disent, on n'a pas le choix, là. Fait que, je suis pas trop. On s'en va dîner à la brasserie chez Magnan, taverne Magnan. Puis moi, je me prends un coke, je me commande un coke. Puis le waiter, il a pas le temps d'être rendu encore à son comptoir, que lui me répète la même astignaiserie. Toi, t'es juste un ci, moi, je suis un ça. Ça a fait waiter, laisse faire le coke, amène un bout. Puis là, je laisse ça mijoter en dedans de moi 2-3 jours de temps, puis là, je m'en reviens travailler un soir chez nous, puis le côté insidieux de la maladie, moi, je suis convaincu, c'est le côté insidieux de la maladie va refaire surface. Faudrait bien que t'arrêtes à la brosserie, voir les gars, fait longtemps que t'es ça pas vu. Fait 30 ans, mais dis que je les ai pas vus, les gars. M'ennuie pas d'eux autres, pas une maudite minute, là. T'sais? Mais à ce moment-là, je me vends l'idée que je m'ennuie des gars à brosserie, puis là, je me rentrais à brosserie, je me prenais un coke, 2 coke. Deuxième coke, commence à me tomber sur le cœur, puis là, il y en a un qui me tape sur l'épaule, voyons donc, fait 3 mois, tu n'as pas pris, 4 mois, tu n'as pas pris, toi, t'es capable d'en prendre une, puis ah oui, donc, t'sais? J'en prends une, deux, je m'en retourne chez nous, puis là, je me vends l'idée, garde des pains d'alcool, t'es capable de te contrôler, puis c'est des idées de fou que la maladie peut nous vendre. Moi, je suis convaincu que c'est ça, là. T'sais? Puis, mais le lendemain soir, par exemple, je suis couché en dessous de la table à la brosserie, puis le party est repogné, puis j'ai tout le temps été très, très malchanceux. Moi, toutes les fois, j'ai recommencé à boire, parce que ça, je te raconte un exemple. Mais pendant de 18 à 26 ans, j'ai passé de doigts ses mains, c'est-à-dire le nombre de jobs que j'ai eu, là. T'sais? Parce que c'était mon pattern. Quand je recommençais à boire, le party repognait, j'ai tout le temps été très, très malchanceux. Moi, la job que je venais de me pogner, que j'aimais tant, ben, il y avait un slack à l'ouvrage, tu sais. J'étais tout le temps seul à se faire mettre dehors, là. Mais, tu sais, la mère, ben, voyons donc, tu viens de l'avoir, la job, il y avait de l'ouvrage, tout. Bon, je sais pas ce qui se passe, tu sais. J'ai déjà vu un boss m'appeler chez nous le samedi, me dire que je travaillais plus pour lui parce qu'il me voyait passer au bureau me le dire. Tu sais, ça donnait un peu l'idée. Moi, je faisais une fin de semaine de 5 jours, je rentrais travailler 2 jours. Puis c'est pas tous les boss qui s'accommodent avec ça. Fait que c'est ça. C'était le gros de mes années de consommation, c'était comme ça. Puis à toutes les fois, j'ai recommencé à consommer. Ça a tout le temps été de pire en pire, mon affaire. Ça a tout le temps été de plus en plus creux. Jamais comparativement aujourd'hui, je vais faire un meeting, là. Jamais je ressors d'un meeting que ça va plus mal que ça allait, là. Ça va tout le temps de mieux en mieux quand je fais du meeting, tu sais. Puis que je parle avec un autre alcoolique, ça va tout le temps de mieux en mieux. Mais dans ce temps-là, là, quand je reconsommais, là, c'était tout le temps de pire en pire, tu sais. Fait que, aller jusqu'à 26 ans, où ce que là, j'ai, te dirais, un autre son de cloche, me faire arrêter possession but de trafic. On vient de Sarnia, en Ontario. Ils nous ont manqué là-bas. Ils nous ont suivis dans le train tout le long. Ils nous ont pogné à la gare centrale à Montréal. Moi, pour une xième fois, j'ai l'illusion à ce moment-là d'avoir atteint le fond du baril, là. Là, j'étais au bout du rouleau encore, là, puis là, tellement qu'à un moment donné, je suis seul avec 2 policiers dans l'ascenseur, là, puis je les remercie de m'avoir arrêté. Moi, c'est ça que ça me prenait à me reprendre en main, là. Là, puis la policière était belle, j'ai demandé s'il était trop tard pour rentrer dans la police, elle m'a dit oui, là. Ça, j'étais chaud encore, j'avais bu tout le long dans le train en m'en venant, tu sais. Mais c'est ça. Puis mon pocheur, avant, m'a fait un petit point en arrière, tu sais. Quand je suis arrivé avec vous autres, cette fois-ci, vous m'avez expliqué que Dieu va mettre sur ton chemin le monde que t'as de besoin quand t'en as de besoin. T'sais? Puis dans mon passé d'alcoolisme aussi, il y a du monde qui sont passés dans ma vie, puis c'est pas pour rien. Dont ce gars-là. Moi, ce gars-là, ça faisait 4 ans qu'il était abstinent quand j'ai commencé à faire affaire avec, puis qu'il se permettait de... Son honnêteté, il l'emmenait à vendre la cochonnerie pour détruire la vie du monde, t'sais? Dont la mienne, tu sais. Mais à 21 ans, il m'a fait connaître Alcoolique Anonyme, ce gars-là. J'ai fait mon premier meeting aux camarades le dimanche soir à Montréal, dans le temps 29e, puis Beaubien. C'était un meeting de 250 personnes, non? Puis c'était les femmes grimées comme pour aller dans un os ou dans une discothèque, puis les gars pareils, puis il y avait un cruising meeting là-dedans, c'était incroyable. Mais moi, l'accueil puis l'amour que j'ai eu là, ce soir-là, ça a fait en dedans de moi, j'ai trouvé à la place ceux qui me finissent mes jours avec du monde qui vont m'aimer comme je suis, vont m'accepter comme je suis. La graine d'alcoolique anonyme s'est semée là à 21 ans. Puis quand je me suis fait arrêter, ben j'étais avec ce gars-là. Puis quelques semaines après, lui va partir sa rechute avec moi. Puis ça fait 30 ans de ça, puis il n'a jamais été capable de revenir à Alcoolique anonyme. Jamais. T'sais. Mais il a passé dans ma vie pour me faire connaître. Oh, ça, j'en suis convaincu. Fait que c'est ça. Puis je suis revenu à A 2 autres fois après. Mais sans écouter ce qu'il se disait en avant, sans faire ce que j'avais à faire, la première fois, on me dit « change ton cercle d'amis ». J'arrive dans un meeting, moi, pis c'est tout du monde qui se tenait à brosserie avec moi, que je voyais plus pendant une couple de semaines, depuis une couple de semaines, ils étaient tous rendus dans un meeting. Fait qu'on se tient tous ensemble, nous autres, des nouveaux, on veut rien savoir des vieux membres, nous autres, tu sais, ils ont pas vu ce qu'on a renversé sur notre cravate, nous autres, puis tu sais, les vieux membres, là, ils comprennent rien de ce qu'on vit, là. Fait que... On s'organise une gang pour aller glisser sur des trips à Piémont la journée de notre fête à moi et un autre gars. Puis on est une gang, on est deux chars, puis à un moment donné, ça fait une heure qu'on est arrivé, moi puis celui que c'est sa fête, on est assis dans les tripes au soleil, on se fait dorer à quoi au soleil, puis on se regarde tous les deux en même temps, puis on se dit, une bonne bien frette de bonne neige, ça serait-tu bon? Tu sais, ça fait deux semaines qu'on a arrêté de boire, là, puis trois semaines, quelque chose de même, puis fait quand les autres sont arrivés à nous autres, on dit, on s'en retourne en ville, on est fatigué. Ben les gars, on vient d'arriver, ça fait une heure. On est fatigué, on s'en retourne en ville. Là, la soif nous a pogné. Probablement qu'il y aurait eu des vieux membres avec nous autres. Il y aurait un qui aurait dit, viens prendre un café, on va jaser. Qu'est-ce qui arrive pour de vrai, là? T'sais? Mais on n'a pas de vieux membres, c'est tous des nouveaux. T'sais? Fait que on a rembarqué la gang dans les chars, puis on s'est descendu en ville. Le dernier débarqué, quand je me suis ramassé tout seul avec mon chum, que c'était sa fête, lui, avec. Premier bar qu'on a vu, on est rentré, on s'est enfermé les bottines, puis ça a été fini pour nous autres. Puis la troisième fois que je suis revenu, vous m'avez suggéré de me prendre un parrain. T'sais. Je me suis pris un parrain qui avait une semaine de plus que moi. C'est pas tout à fait ça, la suggestion. c'est bon d'expliquer c'est quoi le parrainage. Juste de te prendre un parrain de même pour te dire que t'es un parrain, là. Essaye de chercher quelqu'un qui a pris du temps dans le mouvement, qui met son mode de vie en pratique. Va voir en dehors comment est-ce qu'il vit, t'sais. Mais moi, avec ce gars-là, quand même, on faisait du meeting en masse. Puis après le meeting, bon, on allait finir ça souvent dans un club de danseuses de ballet ou dans un piano bar avec le petit doigt dans les airs, puis on buvait notre Perrier avec le petit doigt dans les airs, puis on riait du monde qui était sous. On trouvait ça très, très drôle. T'sais. Quand je suis arrivé avec vous autres cette fois-ci, il y a une vieille membre qui m'a suggéré un livre qui était « Le sermon sur la montagne » de Emmett Fox. Il explique les béatitudes que Jésus a dit sur la montagne là, au début. Puis il explique, il y a une béatitude qui dit « La mesure dont tu te sers pour juger ton prochain » la même mesure servira pour te juger. Puis moi, je me suis rappelé de mon épisode avec mon parrain, puis je vais te conter ça après qu'est-ce qui est arrivé avec mon parrain.
Ça n'a pas de bon sens de te couper dans ce moment aussi crucial. C'est la technologie qui oblige. On va faire une courte pause. On va revenir aux béatitudes, au sermon sur la montagne, un écrit que moi aussi a été posé sur ma route. Nos membres fondateurs nous disent dans la littérature AA que toutes les réponses ne se trouvent pas nécessairement chez nous, que la solution est aussi dans certains livres comme celui que Robert vient de nous mentionner. On revient dans un court instant pour la fin et la conclusion du partage de notre invité.
Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'Internet au AA.org. Les alcooliques anonymes.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de René et son équipe.
Cette pause nous a permis de discuter, Robert et moi, de la richesse de ce court texte, ce court extrait que nous serons jugés à la mesure dont on juge les autres. Donc, un bel enseignement qui nous permet d'accueillir l'être humain différent dans sa complexité et dans sa différence, justement, et que on est loin d'être meilleur que qui que ce soit. Donc, avant de revenir à cette belle explication que Robert va nous compléter, je t'invite à contacter le mouvement des alcooliques anonymes. Je suis convaincu que Robert a suscité cet intérêt en toi. Si tu es seul avec ta consommation et ta souffrance, tu contactes le aa-québec.org. Il y a sur ce site le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région. Si tu ressens le besoin de parler, il y a un membre bénévole des Alcooliques Anonymes qui est tout disposé à poursuivre cette réflexion et cette discussion avec toi. Il y a aussi la liste des réunions près de ta demeure avec une vision Google Maps, GPS, où tu peux voir chaque petit endroit où il y a une réunion des Alcooliques Anonymes. On est très, très privilégiés. Il y en a à tous les coins de rue, à toutes les heures du jour et du soir. Et évidemment, des centaines de réponses sur la structure de ce bel organisme, un site Internet tout à fait complet et mis à jour régulièrement. Donc, Robert nous a parlé de la solution AA, mais aussi celle proposée dans divers écrits et dans diverses démarches. On a quitté sur le sermon sur la montagne.
Oui, c'est ça, avec le sermon sur la montagne, la mesure dont tu te sers pour juger ton prochain, la même mesure servira pour te juger. Je me suis rappelé de mon épisode avec mon fameux parrain qui avait une semaine de plus que moi, puis un soir, on se ramasse dans un club de danseuses, de stripteaseuses, Puis, pour aller aux toilettes, tu descendais des marches, puis tu se retournais en bas, les toilettes étaient au sous-sol, puis il y a un bonhomme qui se lève à deux tables de nous autres, mais il est sous comme un coup de poing, comprends-tu? Puis, il a de la misère à se mettre les pieds un avant de l'autre, puis il a touché la première marche, il a déboulé le restant, puis il a défoncé le J-Proc en bas. Moi, je me roule à côté de la table, je ris tellement, je trouve ça tellement drôle, puis la mesure dont tu te sers pour juger ton prochain, la même mesure servira pour te juger. Je peux te dire que la semaine d'après, il y a une autre gang qui rit en haut parce que c'est moi qui ai sa rechute qui vient défoncer le J-Proc en bas. Tu sais, ça a juste pris une semaine, ça m'est revenu. C'est ça la loi du retour qu'on appelle aussi. C'est comme je t'expliquais, Jean Chrétien disait tout le temps, quand tu craches dans les airs, ça te retombe tout le temps sur l'épaule. C'est ça. Ça a été... Fait que j'ai été, à 26 ans, comme j'expliquais tantôt, je me suis fait arrêter possession de trafic. Après, moi, j'ai remercié les policiers de m'avoir arrêté, puis je suis sincère avec eux autres. Je me dis, je vais arrêter de boire. Tu sais, quand je lui ai dit, là, c'est ça que ça me prenait, puis je suis conscient de ça, là, mais je suis sous encore, tu sais. Puis rendu dans ma cellule, 10 minutes après, je fouille dans ma petite poche de lighter, j'ai un bill de pliage, la cochonnerie dedans encore, parce que la poudre de perlimpinpin, c'est pour ça que je me suis fait arrêter, là. Puis là, me regarder ce que j'ai dans les mains, puis me regarder mon environnement, puis me réaliser à ce moment-là que j'ai perdu la seule affaire que j'ai de bon dans la vie, moi, c'est ma liberté. J'ai l'impression d'être libre à ce moment-là. Je peux dire aujourd'hui, je n'avais aucune liberté à ce moment-là. Tout était fait en fonction de boire. Tout. Je n'avais aucune liberté. L'alcool avait pris le contrôle de ma vie totalement. Puis, moi, j'ai décidé de... Là, c'est fini, là, je viens de perdre ma liberté, puis tout. J'ai flushé ce que j'avais dans les mains, puis c'est fini, j'arrête de boire, puis j'arrête de me geler, puis... 3 jours après, je suis libéré sous caution. Une demi-heure après être libéré sous caution, je suis à la brasserie, j'ai une grosse bière en avant de moi, j'ai des tapes dans le dos, t'es correct, t'as fermé ta gueule, ils m'auront pas les hosties, puis il n'y avait pas besoin de rien faire pour m'avoir. L'alcool m'avait eu bien en masse, bien en masse. Moi, m'être un an libéré sous caution, puis ça m'a ramassé jusqu'à l'itinérance dans cette année-là. Moi, m'être rendu que je travaille dans le salon de bronzage qui appartient à mon chum le jour, puis le soir, ben je mets la clé dans la porte puis je reste dans le salon de bronzage. Moi, il y a une cabine en arrière que c'est un matelas de chaise longue qui est à terre avec mon sleeping bag dessus, ma poche d'hockey dans le coin avec mon linge dedans. C'est tout ce que j'ai. Puis les fêtes vont arriver, puis après les fêtes, entre Noël et le jour de l'an, m'a appelé mon avocat, m'a dit « Tu me règles ça quand me rentrant dedans, me reprendre en main. » Puis m'a arrêté de boire. J'ai été sentencé le 29 janvier 91 à 2 ans et demi possession but trafic. J'ai essayé des substances que j'avais même pas essayé dehors, en dedans. T'sais. À part boire de la baboche, j'ai pas voulu toucher à ça parce que je n'avais trop entendu parler qu'il avait perdu la vue ou des affaires de même, puis il y a d'autres qui en étaient morts. Mais toutes les autres consommations, faire un trip d'acide, essayer un trip d'acide en prison, c'est pas la meilleure place pour faire ça, mais te le dire, c'est pas pantoute le fun, mais c'est ça. Tout pour m'évader, puis pas me vivre encore. Puis après 5 mois, on me passe sur libération conditionnelle, puis on va me voter une maison de transition avec une thérapie basée sur l'alcoolique anonyme pour 6 mois. Moi, tu me parles, ah, parfait, c'est là que je vais aller. Puis, je suis sincère, mais en même temps, je continue à consommer, puis, tu sais, je suis encore crosseur avec moi. Puis une semaine avant d'être libéré, moi, j'ai du stock à fumer sur moi, puis... J'étais avec 2 gars dans ma cellule, j'étais en train de rouler un joint, puis il y en a un quatrième qui arrive, puis ben là, tu viendras plus tard, là, on est 3, puis ah, je n'ai pas pour ça, puis lui, il servirait de bord, puis il était chercher un gardien, il m'a framé. Il a dit, Robert, il y a du stock à fumer sur lui, puis là, ils sont arrivés 3 gardiens dans ma cellule, ils ont mis 2 autres dehors, toi, viens ici, ils m'ont fouillé, ils ont trouvé mon stock, on me transfère de pénitencier, il me restait une semaine à faire. On me transfère de pénitentiaire, on me transfère au CFF à Laval, on me met dans le trou, puis en me mettant dans le trou, le gardien prend peine de me dire « Ta libération est cancellée, tout est cancellé, tu repasses encore lundi, possession plus de trafic. » Moi, là, je t'atterre en astique. Là, je rentre dans la cellule, là, puis je m'assis sur le bord du lit, là, puis le film de ma vie va partir à l'envers. Mais toi, t'as revoir le film de ma vie, là, puis je sais pas combien de temps que le film dure, là, mais je me rappelle la réflexion que j'ai à la fin du film, là. La réflexion que j'ai à la fin du film, c'est en fait « Il n'y a rien de bon en arrière de toi, puis il n'y a rien de bon avant de toi, s'il n'y a rien qui change, là. » Puis là, je broille ma vie, là, je suis à terre, t'sais. Puis la seule affaire qui traîne dans la cellule, c'est un livre de Reader Digest à la table de métal en avant de moi, là. Puis je le prends en pleurant, puis je le rouvre, puis la première page que je tombe dessus, c'est « Pensée à retenir ». Puis la première pensée que me lit, c'est écrit « Les épreuves de la vie te mettent à genoux, puis t'es pas capable de te relever, dis-toi donc c'est la meilleure position pour prier ». C'est tout le temps des frissons à trois fois que je le revis tout le temps. J'ai tombé à genoux ce soir-là, en broyant, c'était un dimanche soir, dans le trou open au CFF, en broyant ma vie. Puis ma prière ce soir-là, ça allait être « Je sais pas t'es qui, je sais pas t'es quoi, mais fais n'importe quoi avec moi, mais ramène-moi pas ici. » J'ai broyé à m'enfant de langue tellement que, brûlé, là, il a fallu que je me roule dans le lit à côté de moi. je me suis mis en fœtus, puis je me suis réveillé dans la même position. Le lendemain, un homme complètement nouveau. Complètement nouveau. Moi, ma vie a changé ce soir-là. Ce soir-là. Tu sais, dans notre littérature, ils disent, tant qu'on n'écoute pas la manière d'un mourant, tu sais, je venais de mourir, moi, là. Là, il n'y avait plus de moi, là. Le moi, là, il était à terre, là, carré, là. Il était en dessous de la tuile sur le béton, là. Tu sais, c'était... je venais d'abdiquer complètement. Je pense que c'est là que j'ai fait ma première, ma deuxième, ma troisième étape en même temps. Admettre mon impuissance face à l'alcool. J'avais plus aucun pouvoir, aucun vouloir. J'avais plus rien, tu sais. Puis j'ai fait 27 jours de trou à ce moment-là. Puis quand j'ai sorti du trou, j'ai fait un an de plus en dedans à cause de ça. Puis il y a un gardien qui travaillait dans le trou qui me croise, Maurice, qui me rappelle encore de son nom. Il m'appelle encore, puis il dit, viens donc ici, il dit, j'ai affaire à toi. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait encore? Il dit, t'as rien fait, mais il dit, t'as quelque chose de spécial. Pourquoi tu dis ça? Ben, il dit, t'as fait quoi? Il dit, t'as fait une trentaine de jours dans le trou, je n'ai fait 27. Il dit, t'as fait 27 jours dans le trou, il dit, quand un petit crise de radio réveil matin, que les postes rentraient à moitié, tu l'écoutais même pas. Du papier et un crayon qu'on t'avait prêté pour écrire, puis une coupe de livres de la bibliothèque t'avait prêté pour lire. Mais il dit, les autres alentour de toi dans le trou, il y avait tout ce qu'ils voulaient avec eux autres dans leur cellule, là, TV, Nintendo, système de son, name it, tout ce qu'ils voulaient avoir avec eux autres, ils l'avaient. Puis ils disaient, on allait voir porter leur bouffe ou le téléphone, puis ça sautait des coches épouvantables, ça cassait leurs affaires, ça pichait la bouffe sur les murs. Puis il dit, oui, toi, avec le peu que t'avais, là, il dit, mais t'as dit, t'étais d'un calme, t'étais désarmant. Je leur faisais peur tellement j'étais calme. Hein? Fait que c'est ça, j'ai fait un an de plus à cause de ça. Puis là, je veux finir vite, parce qu'il me reste pas grand temps. Deux minutes. Je parlais avec Richard tantôt avant le meeting, puis tu sais, dans A, j'ai appris à me soucier, à m'occuper des autres pour m'oublier moins. Ça, c'est pour mon égocentrisme, là, la meilleure façon d'abattre mon égocentrisme, c'est de m'occuper d'une autre personne, tu sais. Puis après 7 ans de mouvement, j'ai été libéré le 23 juillet 92, une boîte de linge, j'ai eu 2 ans, puis une TV, puis une radio empruntée, là, c'est tout ce que j'ai. Ma famille m'est revenue, puis tout. Puis après 7 ans, je vais faire un meeting un soir, puis je reconnais un bonhomme, puis je dis, coudonc, t'as été impliqué dans les services correctionnels, toi, il dit, ben oui, t'es parrain de groupe. Puis en 91, t'étais parrain à Montée-Saint-François. Il dit, oui, tu n'as fait du meeting avec nous autres en dedans. Je dis, non, moi, j'étais résident. Hein? Puis là, il dit, fais combien de temps t'es sorti? Je fais 7 ans, je suis sorti. Il dit, fais combien de temps t'as pas bu? C'est 7 ans, j'ai pas bu depuis que je suis sorti de là-dedans. Il dit, t'es retourné en dedans quand t'es ça au gars, puis t'es-tu malade, je retourne pas là, moi, là, je dis, hey, viens pas fou. Mais lui, là, après que j'ai dit que j'avais 7 ans d'abstinence, ils m'ont pris dans ses bras, ils m'ont fait un hug, puis il y a 2 larmes qui ont coulé. T'sais. Puis il va me dire qu'après qu'il m'a dit ça, il dit, faut que je prenne tes informations, faut que tu viennes dire ça au gars que ça marche, puis tout. Puis il a fini par m'emmener, partager une première fois au Leclerc. Puis après ça, je suis devenu 2 ans son adjoint pour un groupe. J'ai été 2 ans pour un groupe au Leclerc. Puis pour réaliser aujourd'hui que j'étais sa paye, quand j'ai dit que ça avait 7 ans, que j'étais abstinent, que j'étais sorti, puis que ça allait bien, j'étais sa paye de ses efforts qu'il avait fait. Parce qu'aujourd'hui, quand je vais faire un meeting, puis je rencontre un gars qui vient moi, puis qui me dit, te rappelles-tu, t'étais pas rond, Leclerc, j'étais résident. C'est le résultat des efforts que j'ai fait pour mon rétablissement, mais ça marche à tous les niveaux, à tous les meetings. Ouais. T'sais, aujourd'hui, le plus beau cadeau qu'A peut me donner, c'est avec la paix et la sérénité, bien sûr, là, mais c'est de me coucher le soir, puis d'avoir le sentiment d'avoir été quelqu'un pour quelqu'un au courant de la journée. Parce que t'as bien compris à travers mon message que je t'ai rendu un trou de cul, moi. Là. J'étais un trou de cul. Puis quand je te parle, quand je t'ai parlé au début, que je suis rétabli de mon alcoolisme, aujourd'hui, de réussir à être quelqu'un pour quelqu'un au courant de la journée, c'est tout un changement, là. Puis ça se fait juste avec une puissance supérieure à moi-même. Puis, comme je disais à Richard tantôt, j'ai réalisé ça dans les derniers mois, ma puissance supérieure à moi-même, elle a fonctionné quand j'ai fini d'être supérieur. Point final. Merci.
C'est moi qui te remercie infiniment, Robert. Quel beau moment tu m'as fait passer. J'ai retouché au plaisir de servir justement à l'intérieur des murs, dans les maisons de thérapie, dans les groupes, dans d'autres organismes extérieurs au AA. C'est vraiment le point fort de ton dernier segment, c'est de s'oublier pour être disponible pour quelqu'un d'autre sans aucune attente, sans salaire, sans reconnaissance. Et il y a quelque chose de très puissant et de magique qui se passe dans cette action-là. Et c'est la seule qui semble fonctionner pour nous libérer de notre égocentrisme, de notre souffrance et de toutes les difficultés de notre passé. Je dois conclure rapidement en remerciant encore une fois Robert, nos auditeurs, l'équipe d'Un jour à la fois, les collaborateurs radiodiffuseurs qui nous transmettent sur les ondes dans les diverses régions du Québec. Ici René qui vous dit merci beaucoup et à la semaine prochaine.